Les matins de France Culture.
Alors Frédéric Saïs, le vrai ministre des Affaires étrangères, se trouve-t-il à l'Élysée ?
Oui, autrement dit, qui dirige la politique étrangère de la France ? On évoque souvent ce fameux domaine réservé du chef de l'État, mais selon les époques, la réalité est parfois plus complexe. Certes, l'actualité du jour semble donner une réponse claire. À New York, Emmanuel Macron prendra tout à l'heure la parole à l'Assemblée générale de l'ONU. La voix de la France, c'est lui. Le chef de l'État, élu à 39 ans et en recherche de crédibilité, a tout de suite investi le terrain international. Première visite au Sahel auprès des soldats, accueil de Vladimir Poutine, invitation de Donald Trump. Le chef de l'État monopolise l'international, ce domaine de la réforme des travailleurs détachés en Europe au conflit entre les États du Golfe. Attention cependant aux illusions d'optique. Son ministre Jean-Yves Le Drian donne moins dans les effets de manche médiatiques que dans les discrètes relations interpersonnelles grâce au réseau qu'il a tissé quand il était à la Défense sous François Hollande. Entre l'Élysée, Matignon et le Quai d'Orsay, le partage du pouvoir change en fait selon les titulaires des portefeuilles. Certains ministres auront réussi à influencer la doctrine française sur le long cours, comme Hubert Védrine. D'autres auront à peine eu le temps d'imprimer leur carte de visite avant de filer vers d'autres cieux. Philippe Douste-Blazy était méchamment surnommé Mickey d'Orsay, comme le rappelle Vincent Jauvert dans son enquête La face cachée du Quai d'Orsay.
Et alors, que dire de la période de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, qui se trouve actuellement en face de vous, hein, il faut quand même le rappeler.
Alors, c'est le cas pratique d'une totale confiance pour le coup entre un ministre et son président, Jacques Chirac à l'époque. Période documentée par plusieurs récits de l'intérieur. Il y a d'abord, bien sûr, la bande dessinée Quai d'Orsay, le ministère raconté par l'un de vos anciens conseillers, Antonin Baudry, sous le pseudonyme d'Abel Lanzac, avec le coup de crayon de Christophe Blain. L'on y voit votre personnage tempêté contre l'Élysée, parfois, qui est plus intéressé par la nomination du dernier attaché culturel aux îles Fidji que par la crise diplomatique du moment. Sensation confirmée à la lecture du livre de Bruno Le Maire, à l'époque votre directeur de cabinet, même si c'est écrit dans des termes plus diplomatiques, au président les grandes orientations, au Quai d'Orsay, la parole et l'action. Il y a tout de même un secrétaire d'État auprès du ministre à cette époque qui s'appelle Renaud Muselier, qui était sous vos ordres, Dominique de Villepin. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs ce qu'il disait de votre conception de la répartition des pouvoirs ?
Villepin fait tout et je fais le reste.
C'est exactement ça. Voilà, il avait défini votre conception comme ça. Et l'on passe dans ce triptyque sur Matignon, à l'époque tenu par Jean-Pierre Raffarin, dont sur ses affaires internationales en tout cas, le rôle fut sensiblement le même que celui de Renaud Muselier.
Bon, mais alors c'était vrai ? Dominique de Villepin, est-ce que Renaud Muselier avait bien résumé votre méthode de travail ?
Entre un ministre et un secrétaire d'État, la répartition se fait, oui, en fonction des exigences du quotidien. Et je pense que Renaud Muselier pouvait légitimement souffrir d'un espace rare, mais il n'empêche qu'il accompagnait la diplomatie et on a besoin de démultiplier la parole de la France. Donc il n'a pas ménagé ses efforts partout à travers le monde et dans des États où, par définition, je ne pouvais pas aller. Donc il y a une répartition des tâches qui se fait en fonction de la personnalité des uns et des autres. Mais il n'en reste pas moins que c'est bien le président de la République qui non seulement fixe les orientations, mais qui est la France et la parole de la France.
Alors justement, Frédéric Saïs, sur la répartition des rôles, mais cette fois-ci du point de vue de la Constitution.
Alors bref, immersion dans le texte, l'article 5 dispose que le président est le garant de l'indépendance nationale, du respect des traités, il accrédite les ambassadeurs, article 15, mais l'article 20, lui, indique que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. L'article 21 prévoit même que le gouvernement est responsable de la défense nationale en des termes plus courants. Débrouillez-vous. D'accord. Une bonne constitution doit être courte et obscure, c'est la phrase prêtée à Bonaparte. Alors sur le chapitre des relations internationales, pour le coup, la constitution doit être excellente. Qui dirige vraiment cette diplomatie française ? La question trouve une partie de sa réponse, l'a dit, en période de cohabitation. Nous sommes le 6 mai 1986, François Mitterrand et Jacques Chirac se rendent ensemble au sommet de Tokyo, mais c'est bien le président qui prend la parole quand le Premier ministre est sagement assis au bas de l'estrade.
Il n'y a qu'une voix de la France. Ceci est dit une fois pour toutes. De toute façon, le lien gouvernement-président de la République, et j'emploie cet ordre, c'est la politesse qui l'exige, ce lien-là, il est établi depuis toujours.
Voilà, la politesse est une chose, la véritable hiérarchie non dite en est une autre. 10 ans plus tard, Lionel Jospin, Premier ministre, défiera Jacques Chirac, président, en multipliant les tournées à l'étranger. Alors en France, la gestion des affaires diplomatiques est bien un domaine réservé, oui, mais cela dépend de qui a effectué la réservation en premier.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture.